Où va l'industrie ? Un podcast PTC.
Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors que notre industrie prend un nouvel élan, qu'est-on en droit d'attendre d'elle ? Comment peut-elle nous aider à faire face aux défis de notre époque ? À travers ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui démocratisent l'industrie 4.0. Ensemble, découvrons l'impact de ces nouvelles approches et de ces technologies sur notre façon de produire, de consommer et même d'imaginer l'avenir. Parce qu'en effet, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Bienvenue dans Où va l'industrie, le podcast qui interroge le futur pour agir au présent par PTC.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engouement actuel pour les technologies d'intelligence artificielle, dont ChatGPT est probablement le fer de lance. Nous allons nous poser les questions. À quoi sert l'intelligence artificielle dans l'industrie? Comment fonctionne-t-elle? Et quels seront les futurs cas d'application? Nous allons également aborder la partie risque et les craintes que peuvent apporter ces technologies. Je suis Guillaume Takoun, expert de la transformation digitale des entreprises industrielles chez PTC. Et pour parler d'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, je suis ravi d'accueillir François Lamy, Senior VP Gestion des Produits chez PTC. Bonjour François.
Bonjour Guillaume et merci encore de m'accueillir ici à Paris. Je viens de Montréal, ça fait 40 ans à peu près que j'habite à Montréal. Et donc, comme tu l'as dit, je suis Senior Vice President de la gestion des produits chez PTC. Mes responsabilités comprennent la plateforme SaaS de PTC qui s'appelle Atlas, où on délivre des services pour les produits PTC, aussi bien des services de base comme la gestion des identités, mais aussi des services avancés comme l'orchestration des données et bien sûr les services d'intelligence artificielle. Je suis aussi responsable du modèle de gouvernance pour l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle en interne dans nos outils et dans nos processus et nos produits.
Bien, merci François, c'est vraiment un honneur de t'accueillir et puis merci de venir du Canada pour ce podcast. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui suscite beaucoup de fascination et parfois de crainte. On parle d'une technologie qui s'immisce dans la vie de tout le monde et on en parle beaucoup. Par contre, on peut avoir des difficultés à saisir toute la réalité de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait démarrer par la définition de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on peut le définir ?
C'est difficile de définir ce qu'est l'intelligence artificielle ou ce qu'elle n'est pas. En anglais, ils utilisent le mot valise. Pourquoi ? Parce que c'est un terme qui est trop vaste pour une simple définition précise. Où il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans ce mot. C'est un mot multifacette. Pour moi, l'intelligence, qu'elle soit humaine ou informatique, consiste à comprendre ou à établir des relations entre les informations, les données disparates, et à trouver des schémas qui m'aideront, moi ou une machine, à prendre des décisions. En fait, je pense que nous ne devrions pas comparer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle propose à ses propres capacités, mais aussi ses limites, comme par exemple l'émotion et la créativité. Je pense que l'intelligence artificielle doit être mesurée en fonction de son efficacité à aider les humains, comme résoudre des problèmes du monde réel, améliorer la productivité, améliorer la vie. En somme, des compétitions pratiques plutôt que d'essayer de comparer à l'être humain. Maintenant, faut être réaliste. L'intelligence artificielle existe depuis des années, mais est devenue particulièrement visible grâce, comme tu le disais, à ChatGPT. Non, les avancées technologiques ont démocratisé l'accès à cette intelligence artificielle, particulièrement avec ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, qui a permis à tout le monde l'accès à cette intelligence artificielle à travers une interface conviviale. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Pensez à des assistants virtuels comme Alexa ou Siri. À chaque fois que vous faites une transaction financière, pour être sûr que derrière il y a un peu d'intelligence artificielle, dans le domaine médical, dans le domaine industriel. L'intelligence artificielle est partout. Et ce n'est pas une intelligence au sens strict du terme. Non, c'est basé sur une puissance de calcul phénoménale, utilisant des probabilités basées sur des milliards de données qui ont été ingérées par ces machines. Prenons un exemple simple. J'utilise tout le temps le même exemple. Si je demande à l'intelligence artificielle quelle est la couleur du ciel, elle va commencer par répondre par association de mots. Non, le ciel est. Et après, il y a 90% de chances qu'elle va dire bleu. Pourquoi ? Parce qu'elle a ingéré des milliards de combinaisons de phrases et c'était la solution la plus simple. Tous ces systèmes génèrent à la fin des réponses cohérentes en fonction de ces apprentissages. Et le ciel bleu est un bel exemple de cette réponse.
C'est une sorte de statistique ou de probabilité sous stéroïdes finalement.
Exactement. Je dirais la différence, c'est que maintenant on a les systèmes informatiques sur le cloud, on a tous les processus de tous les disons la puissance de calcul, on a toutes les données qui peuvent être absorbées, etc. Et donc c'est ça, c'est vraiment des probabilités, des statistiques sur stéroïdes.
Et si on se concentre sur le domaine industriel, François, quel est le regard des industriels sur cette technologie?
Bah, je dirais ils sont tous excités. Non, tous les dirigeants d'entreprises, que ça soit les, j'aime bien ces mots, CFO, CIO, CDO, CEO, il y en a beaucoup, sont obsédés par l'intelligence artificielle. Non, chaque réunion tourne autour de la manière d'intégrer cette technologie dans les processus existants, de façon à voir comment elle peut améliorer la performance des employés, mais aussi l'engagement et la satisfaction. C'est aussi, je dirais, la question la plus populaire qu'ils ont quand ils rencontrent leurs clients ou leurs investisseurs. Donc, je dirais aussi qu'ils ont raison de s'y intéresser. Non, si on prend par exemple un analyste comme McKinsey a dit qu'en intégrant l'intelligence artificielle, les performances globales devraient augmenter de 20-30%. Donc, il est crucial pour ces compagnies d'adopter cette technologie pour ne pas être dépassées par la concurrence. Et prenons un exemple concret qui démontre un peu pourquoi cette intelligence artificielle peut nous aider. Un exemple complexe comme la gestion des stocks de pièces de rechange. Donc, l'objectif, typiquement, c'est un inventaire minimum. Il s'agit de prévenir la demande afin de maintenir ce niveau d'inventaire le plus bas possible. Grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons améliorer les outils prédictifs, qui étaient typiquement des outils mathématiques, en utilisant plus d'indicateurs, tels que les données historiques, les demandes, les positions géographiques, la capacité de stockage, la capacité de renouvellement, etc. Il y a tellement de données qu'ils peuvent utiliser pour faire ce modèle. Le résultat, il se va à la fin, les entreprises peuvent disposer à un instant T uniquement des pièces de rechange dont elles ont besoin et où elles en ont besoin. Donc, en ce sens, l'intelligence artificielle dope la performance industrielle dans ce domaine.
Finalement, c'est une façon différente de faire les choses pour les faire le plus efficacement possible, mais ça ne change pas les fonds des sujets des industriels qui va être de faire plus vite avec moins de ressources et moins cher.
Yeah, exactement. Ça leur permet d'accéder, je dirais, plus de données pour prendre ces décisions. À la fin, c'est ça. Non, l'intelligence artificielle, pour beaucoup de gens, et même pour moi, c'est une boîte noire. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais plus on met de données dedans, plus on peut avoir de résultats précis.
Tu as parlé de la gestion des stocks. Je suppose qu'il y a énormément d'exemples de cas d'application. Est-ce que tu aurais d'autres cas d'application précis à partager?
Oui, il y a beaucoup de cas d'application. Et à la fin, je dirais que c'est une rive vers l'or qui reflète l'enfer de ces possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans différents secteurs. Non, prenons un exemple de la personnalisation des produits. Non, pour un fabricant de camions, comme Volvo ou de tracteurs, comme John Deere, il faut réaliser que chaque camion ou chaque tracteur sortant de leur usine est personnalisé et unique grâce à une stratégie de plateforme. Donc, c'est la façon dont ils peuvent optimiser ça. Ça leur permet d'offrir à leurs clients une flexibilité incroyable avec des milliards ou des milliers, disons, de possibilités pour personnaliser leur véhicule. C'est là que l'intelligence artificielle peut entrer en jeu. Grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait potentiellement explorer les combinaisons d'options. Quelle option va avec quelle option ? On pourrait voir comment on va pouvoir prédire quelles sont les options qui sont le plus populaires pour nos clients. Donc, en prenant en compte tous les outils de prédiction, comme des données historiques de commandes, la saisonnalité, la demande, va permettre d'optimiser ces choix de personnalisation, d'améliorer la satisfaction des clients en leur proposant tous ces choix, mais aussi pour l'industriel, de garder sous contrôle leurs outils de production et de coûts. C'est une approche de personnalisation qui n'est pas unique à l'industrie de la mobilité et du transport. Nous, je dirais, on la voit se déployer maintenant dans toutes les industries, que ce soit l'aérospatiale, l'électronique grand public. Donc, je dirais que, un exemple, l'intelligence artificielle permettra une personnalisation de masse pour les produits.
Donc, une technologie qui est de plus en plus incontournable dans les entreprises, a fortiori chez les industriels. Tu as parlé d'augmentation de la performance sur la gestion des stocks. Tu as parlé d'augmentation de la performance sur la gestion des variants et des configurations. Que verrais-tu comme gisement de création de valeur, comme exemple et comme levier de création de valeur pour les industriels? Où est-ce que ça va leur apporter des sous?
C'est une bonne question parce que vraiment, tout est sujet d'une création de valeur. Donc la façon dont on le voit à PTC, notre vision est précise. Nous ne cherchons pas à devenir une entreprise axée sur l'intelligence artificielle. Notre objectif principal est vraiment d'aider nos clients à tirer davantage de valeur de nos outils dans lesquels ils ont déjà beaucoup investi au niveau coût, mais aussi au niveau de données qu'ils ont mis dans ces produits. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour la création de valeur. On peut commencer en termes de productivité, en délivrant plus rapidement de manière plus qualitative. Par exemple, l'intelligence artificielle dans le processus de gestion des changements de dossiers industriels, configuration des produits, évolution des produits. L'intelligence artificielle peut analyser les anomalies et les tendances, permettant une détection précoce des problèmes et une évaluation des impacts d'un changement. On peut s'appuyer sur les expériences passées, pour nous aider à prendre des décisions. On a des clients qui utilisent nos produits depuis 10, 15, 20 ans. Et ils ont mis toutes ces données à l'intérieur de produits, tous ces dinos historiques qui ont été capturés, dans la plupart des cas pour des raisons de traçabilité ou de compliance. Maintenant, on leur donne l'opportunité d'utiliser ces données pour prendre des décisions. Donc à la fin, le résultat est une amélioration de la productivité, du temps de mise en marché et de la qualité des produits. Il y a aussi d'autres domaines. Donc maintenant, on est au niveau de la conception des produits. Donc on a une technologie qui s'appelle la conception générative, qui va permettre d'élargir le champ des possibilités pour la conception des produits, en utilisant l'intelligence artificielle pour générer automatiquement des concepts de produits basés sur des contraintes et des exigences spécifiques, comme je dirais les charges sur le produit, les contraintes, les matériaux, mais aussi les processus de fabrication. Non, la pièce ne va pas être la même si on va l'usiner ou si on va la faire dans un moule. La conception génératrice permet donc d'obtenir des designs optimisés pour la performance, l'efficacité des matériaux et la fabricabilité. Cela se traduit par un produit plus innovant, plus durable et personnalisable.
Est-ce qu'il y a des impacts également en termes environnementaux ?
C'est un domaine très intéressant parce que le domaine environnemental, il y a beaucoup de choses qu'on doit tenir en compte. Là, un truc aussi simple que de choisir le matériau. Non, je crois qu'il y a 80% de l'impact environnemental est défini par la décision de l'ingénieur sur le matériel qu'il va choisir. Mais choisir un matériel, c'est très complexe. Initialement, l'ingénieur aujourd'hui doit choisir un matériel basé sur les contraintes physiques. Non, est-ce qu'il va supporter ma charge ? Mais après, il y a d'autres critères à tenir en compte pour l'impact de l'environnement. Où est-ce que le raw matériau a été extrait ? Parce qu'il va falloir le transporter, il va falloir l'extraire, le transporter, il va falloir le traiter. Comment a-t-il été traité ? A-t-il été traité avec, par exemple, de l'aluminium ? Est-ce que ça a été fait avec de l'énergie électrique ou de l'énergie traditionnelle hydrocarbures ? Et ça change complètement l'impact environnemental. Donc beaucoup de données pour définir cet impact environnemental. Et on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour permettre ses choix à l'ingénieur. Aujourd'hui, comme je dis, il regarde une table mécanique et les propriétés mécaniques. Si on peut l'aider à mettre un choix initial qui tiendra en compte tous ces paramètres, on va pouvoir directement avoir un impact sur l'environnement.
Très clair. Alors, tu as mentionné plusieurs gilets de valeur. Les industriels doivent se poser la question, est-ce que je fais ou est-ce que je fais faire ? Pourquoi PTC se saisit de ces sujets ?
Peut-être se saisir de sujet, parce qu'on pense qu'on doit être les mieux qui puissent les adresser à l'intérieur de nos produits. Je pense que c'est là où ça fait la différence. Oui, on peut extraire les données de nos produits, les mettre dans un système d'intelligence artificielle quelque part et extraire de la valeur de ces données. Mais est-ce que cette valeur représente les dernières données ? Un truc aussi simple que ça, non, il faut que ça soit bien synchronisé. Et surtout, je dirais pour moi, la plupart des gens qui utilisent nos produits, ils achètent nos produits pour pouvoir bâtir des règles d'accès sur les données, des règles de ce que j'appelle des business rules, donc des règles d'affaires sur ces données. C'est pas des choses qu'on puisse exporter, qu'on peut mettre dans un système extérieur. Donc de pouvoir intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos produits va permettre d'améliorer l'utilisateur de nos produits de prendre plus de valeur de ce qu'ils ont, mais aussi de tenir en compte de toutes les règles industrielles qui ont été mises à l'intérieur de nos produits. Et je pense que c'est là où ça fait la différence.
Quels sont nos axes de travail sur ces dans cette direction-là?
Je reviens toujours pareil à mon message du début. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle. Notre priorité vraiment est d'amener l'introduction de l'intelligence artificielle dans nos produits, comme je le disais avant, pour rajouter de la valeur à nos produits. Nos clients vont continuer d'utiliser nos produits. Ils ont déjà beaucoup de valeur en utilisant nos produits et ils mettent beaucoup de données dans nos produits. Donc, notre objectif principal est donc d'identifier les cas d'usage innovants pour intégrer cette technologie de façon pertinente et utile dans nos solutions, en visant toujours à créer de la valeur pour nos utilisateurs. L'intelligence artificielle n'est pas nouveau pour PTC, donc on a l'intelligence artificielle depuis très longtemps dans nos produits. Le cas le plus simple, c'est Vuforia. Donc Vuforia utilise la vision par ordinateur pour reconnaître des pièces ou des produits et proposer des scénarios de réalité augmentée, augmentant l'interaction, améliorant l'interaction et l'engagement de nos utilisateurs avec le monde physique. Deuxième produit, ThingWorx. ThingWorx, c'est notre plateforme IoT qui dispose d'un module d'apprentissage d'intelligence artificielle, apprentissage automatique, en anglais machine learning, pour le suivi d'équipements qui non seulement permet d'anticiper les besoins de maintenance, mais aussi d'optimiser les opérations, ce qui se traduit par une efficacité accrue et une réduction du temps d'arrêt. Et c'est un très bon exemple parce que là, c'est une combinaison de données techniques de système, mais aussi de données de machines. Donc de pouvoir combiner non seulement des données logiques qui ont été capturées dans des systèmes de maintenance ou des règles de maintenance, etc., mais aussi les données venant directement des machines, donc les données IoT, les combiner pour pouvoir prendre des décisions, faire de la prédiction, etc. Creo. J'ai mentionné Creo, on discutait Generative Design. Bah oui, Creo a Generative Design, donc des algorithmes génératifs qui explorent l'espace de conception pour trouver des solutions optimales.
Justement, sur cet exemple-là, est-ce que ça veut dire que le logiciel va pouvoir designer une pièce en partant d'une feuille blanche et uniquement des exigences qu'il y a à cette pièce ?
Pas aujourd'hui. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens dans le futur de pouvoir designer quelque chose partant d'une feuille blanche, comme tu disais, en mettant un prompt et dire bah, « je voudrais avoir ça ». On en est encore loin. Il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'arriver, de se faire en ce moment, mais on est encore loin. Par contre, de pouvoir aider l'utilisateur dans son travail quotidien, c'est là où l'IA va pour le moment le faire. Donc, l'utilisateur, dans le cas de Creo, de la conception génératrice, va quand même commencer à désigner, concevoir un produit, va mettre des contraintes et va demander à l'intelligence artificielle de lui proposer des solutions, plusieurs solutions, en tenant compte de ses contraintes, et il va prendre un choix et sélectionner la pièce qu'il veut. Donc, on n'en est pas encore au système complètement automatisé. Le but, là, c'est de permettre à l'utilisateur de focusser, je dirais, sur la créativité et l'innovation et laisser l'intelligence artificielle lui proposer des solutions.
On a parlé de la conception du produit. Si on va un peu plus loin dans le cycle de vie du produit, est-ce que ça peut avoir un impact également dans la partie service?
Oui, la partie service, donc on a un produit appelé Service Max, qui est un outil de gestion des services sur site. Et ils ont intégré l'intelligence artificielle en créant ce que j'appellerais un copilote, qui assiste le technicien sur site en lui fournissant rapidement les informations dont il a besoin dans son propre langage. Aussi, c'est l'un des bénéfices, je dirais, de side benefit de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut avoir aussi le support pour tous les langages. Donc, c'est un agent conversationnel qui va lui permettre d'interagir avec les données de maintenance. Donc, il peut demander quand est-ce que cet équipement a été maintenu, quelle était la dernière pièce qui a été changée. Il peut l'aider à planifier ses visites, etc. Et on pourrait même, dans le futur, penser que le technicien pourra parler avec l'équipement. Du moment que les données sont quelque part à l'intérieur d'une base donnée, bah, il pourra demander à l'équipement, en utilisant le traitement de langage naturel, interagir avec les données de maintenance, quelle est cette pièce, mais les données IoT, quelle est la température aujourd'hui, etc. Donc vraiment, une autre façon pour le technicien d'interagir avec son produit.
On comprend maintenant pourquoi il y a tellement d'engouement des industriels en t'écoutant sur tous ces leviers de valeur qui peuvent vraiment avoir un impact sur la productivité et sur la compétitivité des industriels. C'est probablement très important en France, là où on cherche à réindustrialiser le territoire français. Maintenant, si je regarde sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire les craintes que peuvent susciter ce type de technologie, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de risques? Et qu'est-ce qu'on a mis en place chez PTC pour gérer ces risques?
Donc oui, il faut reconnaître que l'intelligence artificielle est porteuse de plein de promesses, on vient d'en discuter pour les 30 dernières minutes, mais elle soulève généralement aussi des risques, des défis, des risques qu'il est crucial de reconnaître et de gérer. Non, à la fin, c'est une question de maîtrise du risque. Comme j'ai dit à PTC, nous prenons ça très au sérieux, nous avons mis en place des protocoles rigoureux, mais aussi on a donc un comité d'audit qui revoit tous les mois pour revoir tous les projets d'intelligence artificielle qui sont proposés à l'intérieur de PTC, des projets internes, d'utilisation interne, mais aussi des projets d'intelligence artificielle dans nos produits. Donc c'est un audit, un comité qui représente des gens de la partie légale, de la partie compliance, de la partie technique, qui donc regarde ces sujets. On a des critères d'acceptance de ces projets, et à la fin, il y a tout le temps du risque, mais donc c'est une maîtrise du risque, et on approuve ou pas ces projets.
Quels sont les quelques critères finalement pour maintenir cette sécurité? Quels sont les critères qui sont pris en compte par ce comité?
Disons, le critère principal, c'est au niveau de la gouvernance des données. Donc, on gère beaucoup de données à l'intérieur de PTC. On a nos propres données, pensez à nos données de nos clients, à nos données de support, nos données financières. Mais on a aussi les données de nos clients qui nous ont donné pour travailler, pour faire des tests, etc. Donc, la première chose, c'est la gouvernance des données. Non, les entreprises doivent s'assurer que leurs données ne sont pas utilisées pour former des modèles, par exemple, qui ne leur appartiennent pas. Que les données sont utilisées par la personne qui les a proposées. Donc, il faut un processus de gouvernance très clair qui est nécessaire pour l'utilisation de ces données. La deuxième chose, c'est la fuite de données. Quand on utilise ces modèles d'intelligence artificielle, La fuite des données peut créer de graves problèmes, des problèmes financiers, légaux ou simplement de réputation. Il est donc crucial d'éduquer nos employés sur l'utilisation des données et des logiciels permettant l'intelligence artificielle. Non, il y a beaucoup d'exemples dans la presse où des employés ont partagé des données sensibles sur des plateformes comme ChatGPT, créant des situations complexes et potentiellement dangereuses. Ces incidents soulignent l'importance d'une utilisation responsable et éthique des technologies et d'intelligence artificielle. Il y a aussi la propriété intellectuelle et les droits d'auteur qu'on ne doit pas négliger, car elle peut entraîner des litiges et des problèmes de conformité. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de précédent dans le domaine légal. Il y a beaucoup de poursuites judiciaires actuellement, mais il n'y a pas de précédent. Donc c'est un peu plus difficile à gérer et c'est pour ça que nos équipes légales font très attention à tout ce qu'on fait en préparation de futures lois. Il y a une loi en Europe qui a été votée la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et donc toutes les compagnies de logiciels comme nous sont en train de regarder quel sera l'impact de ces lois, aussi bien sur nous, mais sur nos clients. Parce qu'on s'attend que l'impact sur nos clients nous donnera aussi des contraintes sur notre côté. Donc on doit se préparer à ça. Donc vraiment, à la fin, pour atténuer ces risques, il est critique d'avoir une approche structurée, commençant, comme je disais, par une évaluation rigoureuse des cas d'utilisation avant de les mettre en œuvre rapidement. Donc en résumé, je dirais que l'intelligence artificielle présente des risques, mais une gouvernance et une gestion des risques efficaces peuvent permettre d'atténuer ces risques et de tirer parti des avantages de l'intelligence artificielle de façon responsable et éthique.
Donc c'est intéressant, un comité transverse, multifonction, un peu en mode agile finalement par la force des choses, parce que les choses évoluent très vite, qui finalement drive une gouvernance à la fois sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos processus, mais également l'utilisation dans nos produits.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi forcé. Donc, je dirais comme nos clients, donc on utilise des produits, des systèmes, prenons des systèmes comme Salesforce, Oracle, etc., qui, eux, introduisent de l'intelligence artificielle dans les produits et ne nous laissent pas de choix, on doit les utiliser. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette visibilité, cette transparence aussi bien de nos suppliers que de notre côté, de vraiment monitorer ce qui arrive avec nos produits.
Alors, on arrive vers la fin de ce podcast. Est-ce qu'on peut oser faire un peu de prospective? Comment tu vois les évolutions de l'intelligence artificielle? Comment tu le vois dans le milieu industriel? Est-ce qu'on est au début du voyage?
Je dirais qu'on est au début du voyage. Donc c'est vraiment une ère passionnante, comme vous pouvez le voir dans la façon dont je réponds. C'est vraiment très passionnant. Les applications existantes démontrent déjà un impact positif sur les processus industriels. Elles améliorent la fiabilité, augmentent la productivité, etc. Mais je dirais qu'on en est vraiment au début, là. On n'a pas encore atteint l'ère industrielle. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de recherches. Ça bouge tellement rapidement aussi. On peut le voir même des exemples très simples. Moi, j'utilise Microsoft Copilot sur Outlook et tous les 2 jours, je vois des fonctionnalités qui apparaissent ou qui disparaissent. Donc, ça évolue très, très, très rapidement. Mais je dirais quand même, une chose que je dis à nos clients, c'est qu'il ne faut pas se laisser emporter par la technologie pour la technologie. Non, l'intelligence artificielle doit être mise au service de la performance industrielle pour rendre les industries aussi plus inclusives et plus respectueuses de l'environnement. Nous devons également veiller à ce que l'intelligence artificielle reste sous le contrôle de l'humain. Non, qu'elle soit une intelligence artificielle de confiance, fiable et transparente. En fait, ce sont les règles principales. C'est confiance, fiabilité et transparence.
Merci encore François pour tous ces éclairages.
Merci Guillaume de l'opportunité de commencer à communiquer sur l'intelligence artificielle et la vision de PTC autour de l'intelligence artificielle.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes, pour des échanges passionnants avec des experts qui font bouger l'industrie 4.0.